France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Cacher ce rapport, celui de l'ANSES, l'agence sanitaire critique, sur les NGT, les nouveaux OGM, finalement publié aujourd'hui, alors que Bruxelles veut assouplir les règles d'utilisation de cette technique qui rend les plantes plus résistantes au changement climatique. Question pour l'agriculture de demain, pour la campagne des européennes aussi. L'actualité, c'est encore ces largages d'aide alimentaire sur la bande de Gaza. Nous sommes à bord d'un avion. Bruno Le Maire n'hésite plus à le dire. Il veut reprendre la main sur l'assurance chômage à la recherche d'économies et face à la commission des finances aujourd'hui. Nikki Haley jette l'éponge aux États-Unis et n'appelle pas franchement à soutenir Donald Trump. Et puis Missak Manouchian, le résistant communiste tout juste panthéonisé, n'était pas né en 1906 et on vient seulement de le découvrir. Juste après ce journal, l'ultra fast fashion, vos questions, vos témoignages 0145 24 7000.
France Inter.
C'est un rapport qui est resté secret pendant des semaines, celui de l'agence sanitaire, l'ANSES, sur les NGT, ce qu'on appelle les nouveaux OGM, disparu des radars alors qu'il a été remis au gouvernement mi-janvier, juste avant un vote important du Parlement européen sur cette question. Bruxelles veut les déréglementer pour faire de ces fruits et légumes génétiquement modifiés des aliments comme les autres. Bonsoir Célia Kiret.
Bonsoir Hélène.
Et ce que dit l'ANSES, c'est prudence.
Oui, l'agence de sécurité sanitaire recommande une évaluation des risques au cas par cas. Elle ne donne pas de feu vert global pour autoriser ces nouveaux OGM sans condition. Ces nouvelles plantes peuvent en effet être créées grâce à des ciseaux moléculaires qui modifient le gène. Mais attention aux effets indésirables, prévient Céline Druet de l'ANSES.
On peut se dire que finalement, si ces NTG se développent, on va être de plus en plus exposé, puisqu'elles peuvent être utilisées pour des applications relativement larges et pour des espèces beaucoup plus importantes que l'étaient les autres techniques OGM. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une surveillance qui soit globale sur la santé humaine, sur l'environnement, mais aussi plus largement sur une exposition à ces plantes.
Et en effet, cette modification génétique peut avoir des conséquences sur d'autres plantes qui poussent dans un champ voisin.
Et puis il y a aussi un gros enjeu pour les filières agricoles, l'agriculture de demain.
Oui, car le jour où quelques industriels déposeront des brevets pour une pomme de terre plus résistante ou une semence de blé allégée en gluten, ils les posséderont. Alerte Brice Laurent de l'ANSES.
C'est absolument crucial. S'il y a une concentration de la propriété intellectuelle dans les mains d'acteurs économiques les plus puissants, ça produit après des effets d'exclusion. Ça peut valoir le coup de réfléchir à des modèles alternatifs de propriété intellectuelle. Si on veut maintenir une coexistence entre des filières qui seraient sans NGT et des filières avec NGT, ça veut dire qu'il faut mettre en place énormément de dispositifs pour assurer cette coexistence, avec une question importante: qui paye pour tout ça?
Et en effet, les agriculteurs bio devront-ils payer pour protéger leur culture des plantes génétiquement modifiées? Quelle transparence pour les consommateurs? L'ANSES recommande un suivi continu, même après une éventuelle commercialisation de ces nouveaux OGM.
Et les opposants aux NGT au niveau européen, les Verts, les socialistes notamment, disent aussi qu'on n'a pas le recul nécessaire, que l'Europe veut aller trop vite, tandis que la droite au sein du PPE y voit une innovation majeure pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Le débat existe aussi entre les États membres de l'Union à 3 mois des élections européennes. Une quinzaine de pays y voient un outil important, d'autres comme l'Allemagne ou l'Autriche redoutent les conséquences sur l'agriculture biologique notamment. Il est aussi question de notre alimentation avec ses contrôles, de la répression des fraudes sur l'origine française des produits que l'on trouve en rayon, promis par le ministère de l'économie en pleine crise agricole. Et bien sur les 2000 établissements déjà contrôlés, un tiers présente des anomalies et francise des produits qui ne le sont pas notamment.
Et cette fois, la bataille des européennes est bel et bien lancée.
On connaît désormais toutes les têtes de liste. Et quelques jours après le premier meeting de campagne de Jordan Bardella pour le Rassemblement National, le chef de l'État a voulu mobiliser ses troupes. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Élysée, Simon. Dans le huis clos du Conseil des ministres aujourd'hui, Emmanuel Macron a réclamé un engagement sans faille.
Et cela commence ce week-end, puisque le président exige de ses ministres qu'ils soient tout cela en randonnion au pied de la Seine, au premier meeting de la tête de liste Valérie Ayer samedi à Lille. C'est un gouvernement de campagne, disaient les stratèges macronistes et les observateurs il y a quelques semaines au moment de la formation de l'équipe Attal. En voici la confirmation. Mais ce matin, Emmanuel Macron a surtout donné le ton dans cette élection. Je le cite, les choses sont simples. Ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Et le président cible ses adversaires avec en référence le célèbre « Le nationalisme, c'est la guerre » de François Mitterrand devant le Parlement européen en 1995. « Ne laissez pas entrer les nationalistes », a dit le chef de l'État. « Ils étaient déjà la guerre. Ils sont désormais la défaite face à la Russie. Simplifier l'enjeu au maximum. Surligner le côté dramatique de la situation, stratégie habituelle d'un Emmanuel Macron qui a prévu de monter lui-même en première ligne dans cette campagne.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Romain Lucquin. C'est, je le disais, on connaît sans doute désormais toutes les têtes de liste. Jean Lassalle conduira celle de l'Alliance Rurale avec Willy Schren, le président de la Fédération des Chasseurs, et malgré l'enquête qu'il vise pour viol et agression sexuelle. Tandis qu'aux États-Unis, Donald Trump a désormais le champ libre. Sa seule rivale, Nikki Haley, stoppe sa campagne après sa lourde défaite hier dans le Super Tuesday. C'est 15 États qui votent en même temps pour désigner les candidats démocrates et républicains à la présidentielle. Le duel Joe Biden-Donald Trump se confirme et Nikki Haley appelle l'ancien président à mériter le soutien des électeurs, pas le soutien le plus franc.
Selon toute vraisemblance, Donald Trump sera le candidat républicain lors de la convention de notre parti en juillet. Je le félicite et lui souhaite bonne chance. Notre pays est trop précieux pour que nous nous laissions diviser par nos différences. Il appartient maintenant à Donald Trump de mériter les voix de ceux qui, dans notre parti et au-delà, ne l'ont pas soutenu et j'espère qu'il y parviendra.
Voilà, pas d'appel formel à voter pour Donald Trump dans les mots de Nikki Haley traduites par Laurélie Carrive. Les États-Unis qui intensifient les largages d'aide alimentaire ces derniers jours sur la bande de Gaza, au départ de la Jordanie avec l'aide de l'Égypte et de la France. Mohamed Erami, notre correspondant en Jordanie, a pu embarquer à bord de l'un des appareils.
Depuis plusieurs jours, c'est le même rituel pour la trentaine de soldats de l'air de l'armée jordanienne. Avant l'opération de largage sur Gaza, plusieurs militaires inscrivent des petits mots sur les colis à destination des enfants de Gaza. Un des soldats jordaniens explique.
J'ai écrit de la part de nos enfants aux enfants de Gaza, de la part de Fahad, de Rola, de Nordine, de Suleiman, de Ali. On dit qu'on pense à eux et on souhaite juste que nos voix les atteignent.
Dans les colis, il y avait des pâtes, du riz, de la farine, mais surtout des plats typiques palestiniens comme le maghloubé. Après presque 20 jours de largage, l'armée jordanienne a demandé l'appui logistique de l'armée française, émiratie, égyptienne et américaine pour disposer de plus d'avions et accroître ainsi le nombre de parachutes au départ d'Amman. Le lieutenant-colonel Rudy, responsable de l'armée française en Jordanie.
Tout ce qui sera dans les boîtes a été donné par la Jordanie. Nous, on s'occupe du contenant et de l'avion pour permettre de le déposer sur Gaza.
Et la Jordanie n'a pas ça en fait ?
La Jordanie en a, mais elle n'en a pas assez par rapport aux besoins des Gazaouis.
Le largage a duré quelques minutes. Les opérations doivent se poursuivre aujourd'hui, demain et tous les jours jusqu'à qu'une solution pour un cessez-le-feu soit actée, a annoncé un haut responsable de l'armée jordanienne.
Reportage Mohamed Erami en Jordanie. Elle est pour parler sur une trêve à Gaza, piétine au Caire en Égypte. Discussion avec le Hamas sous la houlette des médiateurs égyptiens et qataris. Israël n'y participe pas. C'est un honneur, réagit-il, sur les réseaux sociaux. Garry Kasparov vient d'être placé sur la liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes par Moscou, désormais en exil. Il a été l'un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire avant de devenir un opposant farouche à Vladimir Poutine. Sylvain Tronchet est à Moscou.
Garry Kasparov vient de franchir un échelon dans la hiérarchie des ennemis du Kremlin. L'ancien champion d'échecs était déjà classé agent de l'étranger en Russie. Le voici désormais sur la liste noire du régime, celle des terroristes et des extrémistes. Une liste qui comporte les noms de 550 organisations et de plus de 14 000 personnes, parmi lesquelles on pouvait toujours lire cet après-midi celui d'Alexeï Navalny. Il semble manifestement plus simple d'entrer sur cette liste que d'en sortir. Garry Kasparov a été pendant plusieurs années un opposant actif à Vladimir Poutine, tentant même sans succès de se présenter à la présidentielle russe de 2008. En 2013, il avait fini par choisir de quitter la Russie pour raisons de sécurité. Il vit aux États-Unis désormais et a acquis la nationalité croate. S'il reste célèbre de par son passé de joueur d'échecs, sa voix porte peu ici en Russie aujourd'hui. Il est difficile pour un opposant d'exister depuis l'étranger, la raison pour laquelle Alexeï Navalny avait fait le choix de revenir à Moscou en 2021. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et la situation est plus qu'insoutenable à Haïti.
Déclaration ce soir du commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk. Il appelle au déploiement rapide de la mission de soutien à la police nationale haïtienne promise par le Kenya.
C'était pas un coup de rabot, c'était un coup de frein d'urgence.
Voilà comment le ministre Bruno Le Maire justifie les 10 milliards d'euros d'économie et ceux qui vont suivre 2024-2025. Le ministre de l'économie est venu présenter son plan en commission des finances à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Hélène.
Et il assume ne pas vouloir d'un État pompe à fric.
Face à des députés, y compris de sa majorité, qui n'ont pas apprécié de ne pas avoir plus de détails sur les missions touchées par ce gel de 10 milliards d'euros. Il n'y a pas le choix, insiste Bruno Le Maire. La dégradation de la conjoncture internationale l'impose. L'État doit montrer l'exemple et il faut désormais, dit-il, aller encore plus loin dans les économies.
La formule coup de rabot, c'est l'espèce de formule passe-partout pour rendre impossible toute réduction de la dépense publique. On peut appeler ça comme on veut, ça n'est jamais agréable ni sympathique, c'est tout simplement nécessaire.
Bercy a gelé ses 10 milliards par décret et non après débat parlementaire, reprochent une à une les oppositions qui toutes rappellent avoir alerté le gouvernement sur son optimisme entraînant cette révision inédite du budget. La députée Les Républicains Véronique Louwagie.
M'interroge de savoir si vous avez agi comme des apprentis sorciers ou comme des autruches en mettant la tête dans le sable. À l'automne, tout le monde vous indiquait que le taux de croissance de 1,4% n'était pas tenable. C'est un aveu d'échec de la politique qui est conduite depuis 2017.
Alors, il devrait y avoir une loi de finances rectificative, assure les ministres. À quelle date s'enquièrent les députés? Avant ou après les européennes? Il va aussi falloir travailler sur le budget 2025. Ce ne sont plus 12, mais 20 milliards d'euros d'économies à trouver. Sont passés déjà au crible les aides aux entreprises, au cinéma, affection de longue durée, absentéisme dans la fonction publique ou encore politique de l'emploi.
Et le ministre de l'économie assume de dire désormais que l'État doit reprendre la main sur l'assurance chômage aux dépens des partenaires sociaux.
Oui, cette fois c'est clair. Au fur et à mesure, le gouvernement a de plus en plus encadré les négociations des partenaires sociaux, cadrage en amont, décision finale en aval en cas de désaccord. Les syndicats ce soir ne s'y trompent pas et dénoncent une provocation, un acharnement contre les chômeurs.
Mathilde Dehimi, la terrible solitude des enseignants face aux menaces et agressions. C'est ce que pointe aujourd'hui un rapport sénatorial à l'issue de la commission d'enquête qui avait été lancée en réponse à la demande de la famille de Samuel Paty et renforcée encore après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Il réclame une démarche proactive de l'État. À Paris, plusieurs campements de migrants ont été évacués aujourd'hui sur les quais de Seine. Plusieurs centaines de personnes que la police a voulu protéger du pic de crue de la Seine. Les associations y voient plutôt une opération place nette avant les Jeux Olympiques. Manon Derdevé, bonsoir, vous êtes près de l'île Saint-Louis. Il faut dire qu'une solution de relogement, de mise à l'abri ne leur a pas été proposée.
Oui, ils étaient une soixantaine ici à dormir sous le pont. Des mineurs, pour la plupart venus de Côte d'Ivoire, du Mali ou de Guinée. Mamadou a 16 ans, il vient de replier sa tente.
Les policiers, ils ont venu de nous chasser ici, donc on sait pas là, on va partir pour dormir. Donc, je suis en colère parce que je connais personne, je suis pas de la famille ici en France. Donc, je dors ici, puis des 3 mois, je suis là. Donc, ça, c'est injustice, c'est pas bon, franchement. Donc, on est venu ici pour étudier, pour aller à l'école. On dort ici dehors, donc on mange pas, donc on est malade, on sent pas bien. C'est pas facile, hein, voilà.
Devant lui, une cinquantaine de policiers. Nombreuses associations, vous l'avez dit, venues pour les aider à trouver une solution d'hébergement pour les jours à venir. Paul Allozy est coordinateur à Médecins du Monde Paris.
On alerte sur les effets de nettoyage social des JO. On sait que là, on est en zone rouge des Jeux Olympiques. C'est ici que va avoir lieu la cérémonie d'ouverture de la Seine. Et il y a des fois des maraudes de police qui passent et qui disent aux gens sous les ponts, vous devrez partir à cause des Jeux. Là, l'excuse, c'est la montée des eaux. Et en fait, on souhaite pas que les gens restent là. Il suffirait juste d'ouvrir un gymnase derrière pour les héberger. Il n'y a aucune solution de mise à l'abri. On les dégage et on leur donne pas de solution.
Les associations dénoncent des opérations de plus en plus nombreuses à mesure que les Jeux approchent. Selon elles, ce sont aujourd'hui plus de 200 personnes qui ont été évacués à Paris. Et les migrants regardent en ce moment, désemparés, leurs affaires partir dans des camions. Ils ne savent pas où ils dormiront ce soir.
Manon Derdevé en direct du Pont-Marie, près de l'île Saint-Louis à Paris, avec Julien Girard. Et un peu plus de 4 mois des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France de gymnastique perd son entraîneur, Dumitru Pop, suspendu à titre conservatoire par le ministère des Sports, après la diffusion d'un reportage sur France 2, dans lequel des anciennes gymnastes témoignaient de violences physiques et psychologiques. écologique. Et au pays du ski, le modèle de l'or blanc ne règne plus en majesté. La neige manque dans les stations de moyenne montagne à cause du réchauffement climatique. Alors certaines veulent faire monter des télésièges plus haut. Mais dans la vallée de la Maurienne, le projet de la station d'Aussois vient d'être stoppé par la justice administrative. Elle donne raison à l'association France Nature Environnement, opposée au projet. Un coup dur pour la mairie qui, elle, y voit le seul moyen de pérenniser l'activité économique. Tommy Cataneo.
Oui, activité qui génère 300 emplois directs, rappelle le maire d'Aussois, Stéphane Boyer, assez dépité.
C'est un coup de massue. On a tout fait bien et on comprend pas qu'on vienne maintenant suspendre et arrêter ce projet.
Pour remplacer son vieux télésiège de place de la Fournache, en service depuis 44 ans, la nouvelle municipalité avait obtenu les feux verts nécessaires. D'abord celui du commissaire enquêteur, puis des services de l'État.
C'est un projet qui monte à 2700 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on est sur de la neige naturelle, avec les modèles les plus défavorables du GIEC, plus 4 degrés. Ce secteur du domaine, il est enneigé jusqu'en 2050.
Sauf que ce qui pose problème aux défenseurs de l'environnement, c'est l'aménagement d'une nouvelle piste. Éric Ferraille est le pilote du réseau montagne chez FNE Auvergne-Rhône-Alpes.
Ça aurait été un vrai renouvellement de télésiège sur le tracé ancien, on n'aurait pas bougé une demi-oreille.
La gare d'arrivée du nouveau télésiège était prévue au même endroit, mais la gare de départ, elle, devait être installée 700 mètres plus bas que l'ancienne pour investir une nouvelle partie du domaine.
Il va saccager un endroit qui en plus abrite à ses altitudes de nombreuses espèces à valeur patrimoniale. Ben voilà, il aménage de nouvelles pistes sous couvert d'un renouvellement, ce qui n'est pas admissible.
Quant aux mesures d'évitement et de réduction des impacts, la justice administrative estime qu'elles ne sont pas suffisantes. Le maire d'Aussois envisage de faire appel de cette décision.
Tommy Cataneo, France Bleu, Pays de Savoie.
Où l'on découvre, Hélène, aujourd'hui, que l'année de naissance de Missak Manouchian, gravée sur la stèle du Panthéon, n'est pas la bonne.
Le résistant de la fiche rouge n'avait pas 37, mais 34 ans quand il a été fusillé le 21 février 1944 sur le Mont Valérien. Arrivé en France en 1924, il s'est donc vieilli. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Et on l'ignorerait encore sans l'œil affûté d'une arrière-petite nièce.
Oui, au lendemain de la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian, sa famille visite l'exposition qui lui est consacrée. Des carnets écrits de la main du résistant attirent l'attention de Asmik Manouchian, arrière-petite-fille de Raïk, le frère aîné de la fratrie. Elle les lit sur une page ouverte au hasard. Un texte donne une indication sur l'âge réel de Missak à ce moment-là.
Il y avait 3 carnets ouverts. Et dans ces carnets, on pouvait trouver les notes de Missak, parfois en arménien, parfois en français, parfois sur la même page. En regardant ces carnets-là, je vois Missak qui parle de son âge, où il parle de ses 25 ans. Honnêtement, moi, je ne crois pas trop au hasard. Je pense qu'il y avait quelque chose de là-haut qui a voulu intervenir, en fait.
25 ans en février 1935, Missak Manouchian n'est pas né en septembre 1906, mais en 1909, ce qui confirme une légende familiale. Tout le monde savait qu'il s'était vieilli pour travailler à son arrivée en France. C'est confirmé, la gravure sur la stèle ne sera pas modifiée. Pour autant, l'historien Denis Péchanski qui a conçu l'exposition.
Il faut raconter cette histoire et on trouvera un moyen de l'indiquer d'une façon ou d'une autre. Ça rajoute une dimension très, très émotionnelle à cette affaire-là. Donc vous voyez, au fur et à mesure, vous avez des briques comme ça qui se rajoutent et qui permettent d'associer à la fois l'intime de la vie d'un individu avec la grande histoire.
Ces carnets venus d'Erevan, d'Arménie, mis en lumière l'an dernier, vont faire l'objet de plus d'analyses, de traductions aussi. Ils n'ont sans doute pas dit leur dernier mot.
Merci beaucoup William Delesseux. Les commémorations des 80 ans du débarquement sont aussi en train de se préparer. Emmanuel Macron les lancera le 16 avril dans le Vercors pour célébrer la mémoire des maquisards. Des milliers d'événements locaux sont aussi annoncés. Et c'est un hommage à la chanson française que le dernier album du Britannique Tom McRae, Étrange hiver, c'est le titre, album de duo avec des artistes français, Mathieu Culeron a beaucoup aimé.
C'est en plein confinement que Tom McRae concrétise un vieux rêve, écrire pour des artistes français et chanter lui-même dans la langue de Molière.
Il y a plus de 22 ans, quand j'ai commencé à entendre des chansons françaises, je me disais déjà qu'un jour je ferais un album de duo avec des amis. Et pourquoi pas essayer de chanter en français ? Pourquoi ne pas écrire pour les Français et chanter avec eux ?
Les duos s'enchaînent en français et en anglais avec Chien Noir ou encore une très belle collaboration avec Alex Baupin. Mais tout commence avec l'ami de toujours de Tom McRae, Kerenan.
She's a good friend.
C'est une très bonne amie et j'avais cette chanson faite pour elle. La tension dans les chansons françaises est très différente du songwriting anglais ou américain. On peut y intégrer plus de mots, plus d'informations, et pour moi, c'est presque comme faire du rap.
C'est tout, c'est la
Tom McRae réussit cette alchimie délicate composée pour une langue qui n'est pas la sienne, des duos qui fonctionnent avec toute l'élégance du plus français des Britanniques.
Et j'ai vu les flocons et leurs blancs manteaux.
Tom McRae est en concert à Paris le 25 mars, mais aussi à Strasbourg et à Rouen les 22 et 26, et là, il reste des places.
Eh ben, ça donne envie. Merci beaucoup, Hélène Philly. Dans un petit instant, c'est le téléphone sonne. On parle de l'ultra fast fashion, mais on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et Sébastien Léa s'accalmie ensoleillé temporaire.
Oui, avant le retour de conditions encore très perturbées
ultra
dès vendredi.
Ultra face soleil alors.
Effectivement, et la journée de demain se passera sous le soleil et les éclaircies pour tout le monde, ou presque. En début de matinée, quelques plaques de grisaille retarderont quand même l'arrivée du soleil entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, voire le Lyonnais. L'après-midi sera plus ensoleillé, même si le ciel sera parfois un peu plus variable, des bords de la Seine jusqu'aux frontières de la Belgique et en Alsace. Sur les régions de l'Ouest, le soleil sera partiellement voilé. Ce voile de nuages élevé sera par moments bien dense, notamment sur le nord de l'Aquitaine le matin. Le ciel va également devenir plus voilé l'après-midi en Provence et en Auvergne, alors que dans les plaines du sud-ouest, le ciel va se dégager. Seule ombre vraiment nuageuse demain dans le ciel, ce sont les entrées maritimes qui seront poussées par le vent d'autan et par le vent marin et qui vont se multiplier sur l'Aude le matin pour recouvrir l'Hérault, le Gard et les Cévennes l'après-midi.
Avec des températures maximales qui sont plutôt douces.
Oui, les maximales seront assez nettement au-dessus des normales de saison demain après-midi. 11 degrés à Rouen et Mulhouse, 12 degrés pour Metz et Amiens, 13 degrés à Paris, Laval, Dijon et Carcassonne, 14 degrés à Valence, on attend 15 degrés à Quimper, Grenoble, Nîmes et Bastia, 16 degrés pour Aix-en-Provence et Bergerac, 17 degrés à Agen et Angoulême, 19 à Perpignan, jusqu'à 21 degrés à Pau. En revanche, il fera frais, voire froid au lever du jour. Quelques gelées sont même possibles sur la moitié est, du côté de Vichy, Auxerre ou encore Gap, voire à Saint-Étienne ou à Charleville-Mézières.
Et merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.